terrienne et autres formes de vie. Sachez-le, la vérité est sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. Traversez les bornes de l'espace et du temps en ma compagnie pour découvrir ou redécouvrir le meilleur du fantastique. Littérature, cinéma, télévision, les médias sont nombreux, mais la vérité reste la même, ils sont parmi nous. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Sainte-Afrique pour l'heure fantastique, l'émission dédiée au fantastique sous toutes ses formes. Le fonctionnement est simple, un thème par émission, décliné à travers des œuvres différentes et repris pour quelques conseils pratiques à utiliser dans cet univers fantastique. Alors après avoir voyagé dans le temps, combattu des zombies, exploré les mondes post-apocalyptiques et résisté face aux invasions aliens, vers où poursuivre nos aventures? Allez, en fait ce ne fut pas très difficile de trouver. Le fantastique est si vaste et si riche que j'ai déjà des thèmes d'émission pour plusieurs années. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier les amis et auditeurs avec qui j'ai pu échanger et qui m'ont donné plein d'idées et de super références. Si vous aussi, vous avez un livre, une bande dessinée, un film, une série, un jeu vidéo, une chanson, fantastique évidemment, qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à m'en faire part sur la page de l'émission. Nous continuons donc nos pérégrinations en terre fantastique, et notre voyage nous emmène cette fois plus loin encore, puisque nous partons en vadrouille vers des univers parallèles. Faites vos valises, on est parti! Et pour commencer cette émission sur une note rock'n'roll, The Red Hot Chili Peppers avec Parallel Universe. Étape de notre exploration des mondes parallèles, Univers en folie, de Frederick Braun. Cet auteur, que nous avons déjà évoqué dans l'émission précédente, mêle très adroitement le fantastique à l'humour, et cela donne un ton délicieusement décalé à ses œuvres. Spécialiste de la mise en abîme, Frederick Braun prend souvent comme personnage principal un écrivain, auteur de science-fiction, qui se retrouve soudainement confronté à ce qui faisait justement toute l'intrigue de ses livres. Dans Univers en folie, Kay Swinton, journaliste, directeur d'une revue de science-fiction, est en train de penser au courrier des lecteurs de son magazine, une rubrique intitulée « Courrier des astronautes », quand il est accidentellement envoyé dans un univers parallèle. Rapidement, il s'aperçoit que quelque chose cloche. De petits indices d'abord, des éléments du décor qui semblent étranges, déplacés, puis le doute se transforme en certitude face aux extraterrestres velus, des luniens, comme il l'apprendra plus tard, qui se baladent dans la rue, au milieu d'humains sans réaction. Il est heureux en fait que Kay Swinton ait été si familier avec la littérature d'anticipation. car le monde dans lequel il a été propulsé ressemble en de nombreux points aux nouvelles de science-fiction que l'on pouvait lire dans son magazine. Dans cet univers, qui réserve bien des surprises et des désagréments à notre héros, les voyages spatiaux font partie du quotidien, et la Terre est en guerre contre Arcturus, une planète lointaine, peuplée de créatures hostiles et belliqueuses. Pris pour un espion, confronté à son double, forcé de voir sa petite amie fiancée à un autre, Kay Swinton se fera poursuivre, tirer dessus, menacer et frapper. Face à cet univers étranger et plutôt hostile, il n'aura plus qu'un seul but, rentrer chez lui. Il lui faudra gagner les confins de Saturne à bord d'un vaisseau spatial digne de figurer sur la couverture de son magazine pour comprendre enfin ce qui lui est arrivé et mieux saisir l'étrangeté de ce monde. Il s'apercevra alors que le courrier des lecteurs n'est pas si innocent que l'on croit. Deuxième étape, toujours côté littérature, Entre-monde de Neil Gaiman et Michael Reeves. En 1995, le premier travaillait à Londres sur une série télé tirée de son roman Neverwhere, et le second concevait des dessins animés chez DreamWorks. Ils ont une idée, des univers parallèles, au nombre infini, et dans tous un même individu, décliné sous différents genres, espèces, âges, etc. Ensemble, ils forment une organisation destinée à préserver l'équilibre entre science et magie dans une infinité de réalités possibles. Le concept est fantastique, mais ils doivent se rendre à l'évidence, les producteurs télé ont certaines limites, et même en leur racontant l'histoire de la manière la plus simple et la plus concise, ils ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. Le projet est donc resté dans les cartons un petit bout de temps, puis, en 2007, il sort enfin du tiroir en tant que roman et rafle des critiques élogieuses, comme celle de Science Fiction Magazine, qui affirme que Neil Gaiman et Michael Reeves propulsent la fantasy dans un univers d'une modernité inédite. Allez donc faire un petit tour dans cet entre-monde dans lequel le jeune Joey, héros de ce roman, se perd un jour, pour découvrir qu'il existe une infinité d'univers, à la fois semblables aux siens, mais aussi par certains côtés différents. Les Joey, car ils sont nombreux, il y en a un dans chacune de ces dimensions parallèles, sont des êtres exceptionnels. Ils sont capables en effet de marcher entre les mondes. Et dans ce multivers, dont une extrémité est tenue par la magie et l'autre par la science, les Joey doivent à tout prix maintenir l'équilibre, tout en échappant aux forces de Sir Lamechien et de Madame Indigo, qui se livrent une guerre sans merci pour étendre leur influence sur les dimensions, enlevant au passage les Joey, qu'ils y trouvent afin de se servir d'eux comme carburant pour voyager d'un univers à l'autre. Troisième étape de notre voyage vers des univers parallèles, on passe du côté des séries télé avec Fringe. Créée par J.J. Abrams, Alex Kurtzman et Robert Orci en 2008, cette série américaine réunit trois personnages très différents au sein d'une même équipe destinée à comprendre et à empêcher des événements paranormaux. Tout commence lorsque l'agent du FBI, Olivia Dunham, est chargée d'une affaire pour le moins étrange. Tous les passagers du vol 627 ont été retrouvés morts. La cause de leur décès semble être l'exposition à une toxine jusqu'alors inconnue. Au cours de l'enquête, le coéquipier et l'amant de l'agent Dunham est exposé à cette arme bactériologique d'un type nouveau. Pour le sauver, elle fait appel à un savant, Walter Bishop, qui a mené, il y a une quinzaine d'années, des recherches dans les sciences dites marginales, avant d'être interné dans un hôpital psychiatrique à la suite d'un accident qui a coûté la vie à son assistante. Pour parler à Walter Bishop, Olivia Denham a besoin de l'autorisation de son fils, seul visiteur autorisé et tuteur de son père. Elle part donc chercher Peter Bishop en Irak, le ramène aux États-Unis et, avec son aide, fait sortir Walter de l'hôpital. Ils se retrouvent tous les trois dans les sous-sols de Harvard, dans l'ancien laboratoire du professeur Bishop. C'est le début de leur petite équipe. Et après avoir résolu l'enquête sur le vol 627, de nombreux autres phénomènes étranges exigeront leur attention. Ces événements, qui semblent de plus en plus nombreux et qui paraissent faire partie d'un projet pour le moins énigmatique, se trouvent tous à la frontière entre science-fiction et technologie. Il est question de modifications génétiques, d'armes bactériologiques, de clonage humain, d'expériences étranges, dont on découvre petit à petit que le point de départ se trouve dans les recherches menées, il y a longtemps, par Walter Bishop lui-même. Expérimentant la télépathie, la télékinésie ou bien la téléportation, le professeur Bishop semble avoir été, et continuer d'être, à la frontière entre la science et l'étrange. Adepte des drogues en tout genre et mentalement instable, il a ce petit côté savant fou qui donne du sel à l'histoire. Mais si Walter semble vouloir s'oublier dans le LSD et les expérimentations les plus délirantes, c'est qu'il cache un secret concernant son fils. Celui-ci vient en réalité d'un univers parallèle.
Vous regardez à travers une fenêtre qui donne sur un autre monde. Un univers qui ressemble au nôtre et dans lequel chacun de nous a son double. Je refuse que Peter meure encore. Rien n'est perdu.
Walter, Peter est mort.
Je parle du Peter de l'autre monde, son double qui est encore en vie. J'ai réussi à rallier un autre univers et j'ai ramené un fils qui n'était pas le mien. Que Dieu me pardonne.
Peter Bishop, Olivia Denham du FBI. Votre père est Walter Bishop. Il travaillait à Harvard, dans le domaine des sciences dites marginales.
Vous insinuez que mon père était le docteur Frankenstein? Pourquoi ils t'ont choisi? Pose-toi la question.
Nous vous avons donné la capacité de percevoir des choses de l'autre univers.
Salut, c'est moi qui ai parlé de sentiments.
Entre. Je ne suis pas de ce monde, n'est-ce pas?
Fils, je ne suis pas ton fils.
Je peux te ramener là où est ta place.
Peter est en danger, il faut nous aider à passer de l'autre côté.
De ce côté-ci, il est secrétaire de la défense. La section spéciale dépend de lui.
C'est votre équipe?
Agent Francis et Denham.
Ces agents de l'autre monde ne méritent pas notre confiance.
Ayez confiance en moi, je suis vous.
C'est de l'opéra qu'ils vont repartir.
Faites l'échange.
Bienvenue au Bercail.
Infiltration réussie. Faites-moi sortir de là. Par pitié, faites-moi sortir!
Après avoir découvert qu'il vient d'un autre monde, Peter y suivra son véritable père. Olivia, qui possède certains dons lui permettant de passer d'un univers à l'autre, mettra tout en œuvre pour le ramener. Il faut dire qu'en passant plus d'une année à résoudre des mystères en sa compagnie, elle en est un peu tombée amoureuse. Et c'est réciproque. Peter accepte donc de la suivre et de revenir dans notre univers. Mais c'est sans compter sur le Walter du monde parallèle, surnommé par son double Walter Ego, qui organise le kidnapping d'Olivia et la remplace par son double. C'est donc une autre Olivia Denham qui rentre en compagnie de Peter et file avec lui le parfait amour, en remplissant sa mission d'infiltration et d'espionnage. Pendant ce temps-là, la vraie Olivia est retenue prisonnière par Walter Ego, qui lui fera croire, la poussant aux limites de la folie, qu'elle est l'Olivia de ce monde et qu'il n'a jamais existé d'autre univers. C'est à ce moment que regarder la série devient une véritable torture psychologique, tandis qu'Olivia se laisse peu à peu convaincre et que Peter goûte les délices de la vie de couple avec le double de celle qu'il aime, espionne de surcroît. Et j'ai tenté l'expérience, on a beau hurler devant son écran, rien n'y fait. Il faut leur laisser le temps de s'apercevoir par eux-mêmes de la situation, afin qu'ils puissent enfin se retrouver. Et même alors, les ennuis ne seront pas encore terminés pour eux. Les deux univers entrant en collision, celui de Walter Ego entreprendra tout simplement de détruire notre monde pour survivre. Et la clé qui permettra d'annihiler un des deux univers et de sauver l'autre, c'est Peter. Thank you. écoutez Radio Saint-Afrique pendant l'heure fantastique et notre voyage continue vers d'autres mondes, vers des univers parallèles. Et si l'on allait voir un peu du côté de la bande dessinée, qui, je le précise aux auditeurs aux idées courtes, n'est pas destinée qu'aux enfants et appartient, selon moi, pleinement à la littérature. On parlera parfois ainsi de roman graphique, afin de montrer que le travail du scénario et du texte est aussi important que celui du dessin. La Roue est une bande dessinée d'heroic fantasy, dont le premier tome est sorti en 2001. Créée par Drazen Kovacevic et Gora Strandbonia, elle raconte l'histoire, située dans le futur, d'un homme, Alfred Chester, qui vient d'assassiner sa femme. Arrêté, emprisonné et jugé, Alfred se retrouvera contraint de faire un choix. La peine de mort ou La Roue, d'où le titre de la BD. La Roue est un programme qui sépare l'esprit du corps et l'envoie dans un autre univers. Tandis que l'esprit du condamné intègre le corps d'une autre personne et en prend possession dans un autre monde, son corps est congelé et conservé par l'État. Alfred choisit La Roue et se retrouve dans le corps d'une jeune princesse, Léone, héritière d'un royaume sur le monde d'Arkham. Plutôt décontenancé par ce nouveau corps et par un univers médiéval et fantastique qu'il va devoir apprendre à connaître, Chester Léone va tomber amoureux de la dame de compagnie de la princesse, réaliser une prophétie et mener les troupes du royaume pour sauver Arkham. Un mélange détonnant entre science-fiction et héroïque fantasy, où les scientifiques et les militaires, un duo classique de la science-fiction, responsable du projet Roue, côtoie dragons, sorcières et nains, engagés dans une quête dont dépendra le sort d'Arkham. When all the salt is taken from the sea, I stand dethroned, I'm naked and I bleed. But when your finger points so savagely, precious Lord, how can I belong in this great big world of sadness? How can I forget those beautiful dreams that we shared, that lost and I know where to be found? Ooh, how can I go? Ils glissent d'un univers à l'autre, voyagent sans arrêt, ne sachant jamais où ils vont arriver, ni même s'ils pourront rentrer un jour dans leur monde d'origine. L'œil rivé sur une étrange télécommande qui affiche un mystérieux compte à rebours, ils doivent bien souvent jouer les contre-la-montre pour activer à temps le vortex et pouvoir quitter l'univers dans lequel ils sont tombés. Si vous avez allumé un poste de télévision dans les années 90, vous avez sans doute reconnu la série Sliders.
Si l'on découvrait ici, sur Terre, d'autres mondes inexplorés, où tout serait possible. La même planète, dans des dimensions parallèles. J'ai trouvé le passage.
Sliders, les mondes parallèles, est une série télévisée de science-fiction américaine créée par Tracy Tormé et Robert K. Wise, diffusée à la fin des années 90. Elle raconte les aventures d'un groupe, les Sliders, c'est-à-dire les glisseurs, qui passent d'un monde à un autre au travers d'un vortex déclenché par un appareil ressemblant à une télécommande. Celui-ci sert également de minuteur, puisqu'il affiche le temps restant à passer dans le monde parallèle. Les glisseurs ne peuvent en sortir avant la fin du compte à rebours, mais doivent impérativement le déclencher à ce moment-là. S'ils loupent le coche, ils restent coincés dans l'univers sur lequel ils sont, perdant tout espoir de rentrer enfin chez eux. L'intrigue de nombreux épisodes reposera sur cette course contre la montre, notamment dans la saison 1, qui sera aussi l'occasion d'imaginer quelques versions alternatives de l'histoire, dans lesquelles les pharaons dominent le monde, les Français ont colonisé l'Amérique du Nord, ou la pénicilline n'a pas encore été inventée. La petite équipe, constituée de Quinn Mallory, un jeune étudiant brillant, inventeur du dispositif de glissement entre les mondes, de son ami Wade Wells, son professeur de physique Maximilian Arturo, et d'un chanteur has-been, Rembrandt Braun, qui échoue avec eux par accident, et cette petite équipe devra affronter de nombreux périls. Les mondes dans lesquels ils arrivent ne sont pas toujours accueillants, et leur ignorance des us et coutumes locales peut être source de bien des ennuis. Au fur et à mesure des saisons, le danger se fait de plus en plus pressant, à travers notamment les Cro-Mags, une race humaine alternative et belliqueuse qui a entrepris d'envahir les autres mondes. Sur un fond de divertissement, d'aventure parfois un peu caricaturale, cette série en trouve une fenêtre de réflexion. Ainsi, des questions politiques et sociales de notre société sont interrogées à travers les différentes versions alternatives de l'histoire que traversent les personnages. Si ces questions sont souvent traitées avec humour et légèreté, c'est tout de même une série pour ados, la réflexion n'en est pas toujours absente, et les divers épisodes déclinés sur le thème « et si » offrent une palette intéressante d'uchronies. Thomas Vital, vice-président de la chaîne Sci-Fi, explique dans l'introduction d'un livre intitulé « L'univers de la science-fiction et au-delà » que la science-fiction est un genre important, si ce n'est le plus important du monde littéraire, télévisuel et cinématographique. Comme tout autre genre, elle permet d'explorer chaque facette de la condition humaine, mais elle a en plus le pouvoir de stimuler l'intellect et l'imaginaire. Je rejoins tout à fait cet avis, et je l'ouvrirai même à tous les genres de l'imaginaire, fantastique, héroïque fantasy, et même l'horreur ou le gore. En nous montrant ce qui n'est pas, plus ou pas encore humain, zombies, aliens, elfes, robots et autres créatures, qu'elles soient effrayantes ou merveilleuses, on nous questionne sur ce qu'est l'humain. En nous montrant l'avenir, radieux ou pas, c'est d'ailleurs plutôt cette deuxième possibilité qui est explorée, comme nous l'avons vu dans une précédente émission, c'est au présent, faiseur de futur, que l'on nous renvoie. Et notre thème d'aujourd'hui est lui aussi porteur d'interrogations. En se projetant dans des univers parallèles, ce sont des réalités alternatives que l'on imagine, ce qui nous amène assez rapidement vers ce que l'on nomme l'uchronie. Si l'utopie, du grec topos, le lieu, nous invite dans un pays imaginaire qui frappe par sa perfection et dans lequel on lit bien souvent en négatif l'imperfection de notre propre société, l'uchronie, du grec chronos, le temps, nous plonge dans une version alternative de l'histoire. Ainsi, les héros de Sliders font étape dans un monde où l'URSS a gagné la guerre froide. Philip K. Dick, dans Le Maître du Haut-Château, ou Robert Harris, dans Fatherland, imagine une version de l'histoire dans laquelle l'Allemagne nazie aurait remporté la Seconde Guerre mondiale. De quoi nous renvoyer à nos livres d'histoire pour mieux comprendre le présent de notre monde et à nos journaux d'actualité pour mieux saisir le caractère déterminant de certains événements auxquels nous ne sommes pas toujours obligés d'assister en spectateurs passifs. En effet, nous pouvons aussi choisir d'en être les acteurs, guidés par l'idée qu'un autre monde est possible. l'on clôt cette petite liste non exhaustive des univers parallèles avec notre rubrique dédiée au cinéma pour jouvencelles, aux navets manichéens et bien-pensants, aux accents patriotiques mielleux, le film de Pucelle.
C'est vrai ce qu'on dit, vous êtes le fils d'un démon et d'une Pucelle ?
Ouais, pourquoi ?
Vous avez plus pris de la Pucelle.
Et ce mois-ci, notre film de Pucelle nous emmène dans un joli univers parallèle, découvert au fond d'une armoire et exploré par des enfants. On y trouvera de la magie, bien sûr, des animaux qui parlent et une lutte du bien contre le mal. Il s'agit, vous l'avez sans doute deviné, du monde de Narnia.
Tout ce que vous pensiez savoir va être bouleversé.
Cette série de 7 romans, écrits par Clive Staple Lewis et complétée par des films de la BBC et de Walt Disney, a au moins le mérite de faire lire les enfants. Mais si vous avez passé l'âge du Biactol, vous risquez d'avoir du mal à vous identifier à des personnages principaux prépubères. Si vous avez arrêté de porter un appareil dentaire et de tenir votre journal intime, si vous ne mettez plus de petits cœurs en place de points sur les i, si vous avez renoncé au maquillage à paillettes et au mouchoir d'un soutien-gorge, alors allez plutôt lire un bon Tolkien. Vous y trouverez également de la magie, des arbres qui parlent et des créatures fantastiques. Mais là au moins, l'histoire ne sombre pas dans le manichéisme et le héros a des poils, au pied du moins. On peut aimer les aventures d'un héros inattendu, dans un monde étrange, peuplé de créatures merveilleuses et effrayantes, sans pour autant tomber dans des clichés gros comme un troll des montagnes et un ton digne de la Bibliothèque Rose. J'exagère peut-être ? Allez, on s'écoute un petit bout de la musique du film. Et imaginez bien le héros faisant face à des monstres 10 fois plus grands que lui, dans le pur style prince de Lu, prêt pour l'aventure, tenant une épée à bout de bras ou bandant un arc en affichant un air déterminé. Vous en doutez encore ? Je vous laisse seul juge. Désolé à tous les fans de Narnia qui nous écoutent, mais lorsqu'un livre de Pucelle est adapté au cinéma, il y a des chances que ça donne un film de Pucelle. Mais il faut sortir des idées préconçues sur le fantastique et la science-fiction, genre souvent méprisé et dévalorisé. Il m'est arrivé, dans une grande librairie, de demander où je pourrais trouver le livre « Je suis une légende » de Richard Matheson. Et l'on m'a répondu « Il faut sortir et traverser la rue, la boutique jeunesse est de l'autre côté ». Et c'est ainsi que j'ai trouvé le roman que je cherchais, et que je ne qualifierais pas vraiment de littérature jeunesse, dans un rayon SF coincé entre des cahiers de vacances et des livres d'Aura l'exploratrice. Malheureusement, ces livres, films et séries de Pucelle, s'ils nous font bien rire, font aussi beaucoup de mal au genre de l'imaginaire. Ce sont eux qui poussent un public non averti à mépriser un genre, qu'il soit littéraire ou cinématographique, qu'ils pensent réservé aux enfants. Mais le fantastique, la science-fiction, l'héroïque fantasy peuvent aussi donner lieu à de véritables chefs-d'œuvre, des romans et des films cultes qui nous invitent à réfléchir sur notre monde en imaginant un autre. Et si, comme beaucoup, j'apprécie de temps en temps un petit film de pucelle pour me vider le cerveau, il est essentiel de savoir faire la différence entre le simple divertissement et l'œuvre d'art. Et pour terminer notre émission, notre dernière rubrique consacrée aux conseils pratiques à utiliser dans ces univers fantastiques. Quelles recommandations pour les aventuriers prêts à tenter le passage vers un autre monde ? Faut-il une formation spécifique pour voyager d'un univers à un autre ? Que prendre dans sa trousse de secours ? Quels dangers comporte la traversée et comment les éviter ? Tous les conseils, toutes les astuces sont sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. Pour commencer, on pourra poser une chose essentielle sur le voyage dans des univers parallèles. Partir, c'est bien. Revenir, c'est mieux. Or, c'est souvent ce second point qui pose problème. Et le poète de se lamenter.
A fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Je fumais la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village? Je fumais la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains, le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin la douce Angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je?
Le voyage, en effet, n'est jamais si beau que lorsque l'on est rentré dans son univers familier, enrichi de souvenirs et de belles histoires à raconter. Comme lorsque vous partez en vacances, n'oubliez donc pas votre appareil photo pour immortaliser vos rencontres et les paysages extraordinaires que vous traverserez. Vous pourrez à votre retour vous faire un joli album que vous montrerez à tous vos amis. On n'oublie pas également d'emporter dans sa valise les essentiels pour tous les temps. Des sous-vêtements propres, des pulls bien chauds et son maillot de bain. Si vous tombez sur une version de notre planète qui traverse une ère glaciaire, vous serez bien content de trouver votre parka. Pensez aussi à vous doter d'une trousse de premier secours en cas de petit bobo. Et surtout, adaptez-vous à votre nouvel univers. Quand vous partez en vacances en Chine, vous n'allez pas manger dans un restaurant français, non ? Et il ne s'agit pas seulement d'apprendre à connaître une culture différente. Il s'agit de survivre. Ne pas se plier aux règles de conduite d'une société peut parfois s'avérer dangereux. Alors, faites-vous discret, ne jouez pas trop les touristes, ramassez vos papiers gras et cherchez à comprendre rapidement le fonctionnement du monde dans lequel vous êtes tombé. Tout cela est bien beau, me direz-vous, mais l'on n'est toujours pas rentré à la maison. Il faut dire que cela n'est pas toujours aussi simple. Pour commencer, soyez prudent. Et avant d'entamer votre voyage, si tant est que celui-ci soit volontaire et non accidentel, évidemment, veillez à vous munir d'un billet de retour. Et oui, lorsqu'on part, tout excité par l'aventure, il est tentant d'oublier le retour. On se dit qu'il sera toujours temps d'y penser plus tard, que l'on prendra son billet au dernier moment. Et puis arrivent les problèmes, et l'on se retrouve coincé dans une contrée étrangère qui ne semble plus si sympathique maintenant qu'il vous est impossible de la quitter. Ne jouez donc pas les insouciants et réfléchissez bien avant de tenter le voyage. L'herbe a l'air plus verte ailleurs, bien sûr, mais vous le savez bien, cela est souvent illusoire. Si vous n'avez pas un diplôme d'ingénieur en machine bizarre ou les capacités étonnantes d'un docteur venu de Gallifrey pour vous sortir de là, restez à la maison, vous vous éviterez bien des problèmes. À vous et à l'univers tout entier. Comme dans Fringe, les passages entre les mondes peuvent parfois laisser des blessures qui ont du mal à se refermer, et l'hémorragie peut alors être fatale à l'un, voire aux deux univers. Lorsque le docteur, de la série Doctor Who, découvre un univers parallèle, il lui faudra ensuite réparer les dégâts et refermer une fois pour toutes le passage, afin de sauver l'équilibre du temps et de l'espace. De même, dans un épisode de Star Trek intitulé « The Alternative Factor », le Capitaine Kirk doit empêcher une faille entre notre univers et son parallèle, constitué d'antimatière, de mettre fin à tout ce qui existe. Le passage d'un monde à un autre cause en effet des perturbations dans les lois de la physique, et le couloir qui relie les deux univers doit absolument être refermé, sous peine de voir les deux mondes s'annuler l'un l'autre. On ne rigole pas avec ces choses-là, alors prenez vos précautions. Une dernière astuce, non pas pour les apprentis voyageurs d'entre les mondes, mais pour les pantouflards qui restent à la maison. Si vous avez décidé de ne pas tenter le voyage, il n'est pas exclu qu'un autre vous, une autre version de vous-même, avec davantage de goût pour l'aventure, ne soit pas déjà ici. Il en est de même pour votre cher et tendre. Qui vous dit que celui ou celle qui vous susurre des mots doux à l'oreille n'est pas en fait le double de votre conjoint, qui se lamente ficelé dans le placard, pendant que vous comptez fleurette à une créature d'un autre monde. Et s'ils nous ressemblent physiquement, quelques petites variations près, nos doubles ne sont pas toujours moralement recommandables. Dans l'épisode de Star Trek intitulé « Mirror, Mirror », le capitaine Kirk et son équipe sont accidentellement échangés avec leur double venu d'un univers parallèle. Aux quelques détails extérieurs, Spock porte la barbe et Sulu arbore une vilaine cicatrice sur la joue, s'ajoute une énorme différence de caractère. Tous les doubles des personnages sont en effet barbares et cruels. Et si notre alter-ego psychopathe prenait notre place? Comment savoir si mon capitaine ou mon amoureux n'a pas été remplacé par un dangereux criminel venu d'un autre univers? C'est vraiment un coup à devenir parano, cette histoire. Mais rassurez-vous, l'heure fantastique a trouvé l'astuce. Il vous faut un code. Mettez-vous d'accord avec votre moitié et convenez d'un mot ou d'une phrase chacun. Régulièrement, placez dans la conversation, tenez par exemple le mot « pirouette ». Et s'il répond par exemple « ascenseur », vous pourrez vous abandonner rassuré entre ses bras. Un truc de ouf? Peut-être. Mais il n'empêche que si Olivia et Peter dans la série Fringe avaient pensé à ça, ça nous aurait évité bien des dégâts. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je me suis régalée durant cette saison 1 de l'heure fantastique et j'espère qu'il en a été de même pour vous. On se retrouve en octobre pour une saison 2 avec de nouveaux thèmes, de nouvelles références, de nouveaux films de pucelles et toujours plus de conseils et astuces. Et nous commencerons par aller faire un tour de l'autre côté de la Manche au royaume du roi Arthur. En attendant, passez un très bon été, mais restez sur vos gardes car vous le savez, ils sont parmi nous.